Il est 18h à Kinshasa, 19h à Lubumbashi, c'est l'heure de notre journal.
Radio Kapi. Oh,
Kapi. Billy Ivan Lutumba, bonsoir.
Bonsoir Jean Gandou. Kinshasa, ville sinistrée du moins pour ce qui est des quelques communes telles Mongafou, Langalié, Malimété, Matété. Les eaux depuis de vendredi à samedi laissent jusqu'à ce jour un spectacle désolant. Inondation des maisons englouties, des routes fortement ensablées. Décryptage de ce tableau en ouverture de ce journal sur Radio Capi. En actualité aussi ce dimanche, c'est cette collaboration mise sur pied entre Dar es Salaam et Kinshasa sur le plan de la défense et de la sécurité. Les deux États s'engagent à coopérer militairement. Vous en savez plus dans cette édition. Solange Riziki, initiatrice de l'orphelinat Nid d'Espoir, intervient en fin de ce journal comme invité. C'est pour parler encadrement des orphelins victimes des conflits armés en RDC, activité qu'elle mène depuis 2020. Tous ensemble, embarquons à présent pour une tournée d'actualité à travers diverses provinces du pays. Excellentes conditions à toutes et à tous. À vous tous qui nous suivez de partout en RDC, bonsoir. Circulation catastrophique entre l'échangeur de Limété et le saut de mouton des bonhommes sur le boulevard Lumumba ce dimanche. C'est à la suite de la crue de la rivière Ndjili depuis samedi. Plusieurs policiers sont déployés avec leurs véhicules qui barricadent la route à partir de l'échangeur sur la bande allant vers Ndjili. Jeff Ngoy nous décrit la situation sur place.
C'est comme si la ville de Kinshasa était suspendue entre échangeurs et la rivière Ndjili. Des milliers de gens sont à pied sur ce tronçon. Ceux qui viennent de traverser le pont Ndjili ont la partie inférieure de leurs vêtements mouillés. Les voyageurs rencontrés sur cette voie en partance pour l'aéroport sont surpris de la scène macabre avec des engins roulants restés immobiles entre le pont Matete et la rivière Ndjili. Certains sont obligés d'abandonner leur transport et de se jeter à l'eau moyennant de l'argent payé aux porteurs de leurs valises. D'autres, par contre, désemparés, repoussent chemin et renoncent au voyage. Le cortège du gouverneur rencontré avec une forte escorte policière est aussi bloqué. Pareil pour les cortèges funèbres à destination du cimetière de Kinkolé. Jusqu'à 14h que nous quittons le lieu, rien de spécial comme travaux d'envergure pour résorber le problème. Des rendez-vous ratés et reportés.
Contacté par Radio Kapi, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba affirme que les éléments de la police nationale congolaise sont à l'œuvre sur place au pont Ndjili et les travaux de dragage sont très avancés. La circulation partielle a déjà commencé. Bientôt, il y aura normalisation. La population inondée est également prise en charge par le gouvernement. Toujours en rapport avec cette situation, à la suite du débordement de la rivière Ndjili dont les eaux se déversent sur la chaussée du boulevard Lumumba, le ministère des Transports, Voies et des Communications et des Enclavements annonce quelques dispositions pratiques. Dans un communiqué publié ce 6 avril sur son compte X, il invite les passagers dont les vols sont prévus aujourd'hui à emprunter les navettes par voie fluviale de l'Onatra au départ de Beach Ngobila. C'est à destination bien entendu du port Congo futur à Kinkolé ou du port Safari Beach. Une fois arrivés à ces ports, les passagers pourront être acheminés par les bus de Transco jusqu'à l'aéroport de Ndjili. Réaction à propos de ce qui se passe à présent sur la ville de Kinshasa, la réaction est de la coalition Lamuka qui se dit choquée par l'absence d'un plan de contingence et le manque de planification des autorités de la ville. Pour Prince Epengue, il est anormal que 24 heures après la pluie diluvienne qui a mis KO la ville de Kinshasa, rien ne soit fait pour reloger la population sinistrée. On écoute Prince Epengue au micro de Judy Mister Bilanda.
Même si c'est une catastrophe naturelle, quand il y a un plan de contingence, quand il y a une bonne planification, une bonne anticipation, l'on peut sauver des vies. À ce qui concerne Ndano, par exemple, dans le quartier Limété, c'est depuis juin 2019 que Félix s'était rendu en faisant la promesse ferme de construire une digue. Depuis, rien n'a été fait. Comme conséquence, ce matin, la population est là depuis 48 heures. Elle ne peut pas sortir. Pire, aucune aide de l'État. La coalition Lamuka et la DD Congo demande qu'il y ait l'envoi d'un hélicoptère militaire pour faire un état des lieux général. Mais aussi, on exige que le gouvernement envoie des canaux gonflables où les eaux ont envahi tous les quartiers afin d'évacuer les malades, les vieillards, les enfants et les femmes enceintes qui sont bloqués sur les toits et dans les immeubles.
La RDC et la Tanzanie décident de renforcer leur coopération bilatérale sur le plan militaire. C'est ce qui explique l'accord de partenariat signé ce vendredi à Dar es Salaam par les ministres de défense de ces deux pays. Cette coopération consiste entre autres au renforcement des capacités des officiers des FRDC en cette période où l'est de la RDC est en proie à l'agression rwandaise. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
En mission officielle à Dar es Salaam, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale a posé sa signature sur cet accord après échange de quelques heures avec son homologue tanzanienne, Stergomena Lawrence. À cette occasion, Guy Kabombo Mwanyamvita a formulé les besoins de poursuivre la formation des officiers des forces armées de la RDC en cette période où la partie est du pays connaît une dégradation de la situation sécuritaire au risque de créer l'instabilité dans toute la région des Grands Lacs. À l'issue de ces échanges, le patron de la défense congolaise a déclaré, je cite, « Nous exprimons les besoins de bénéficier de votre expertise pour la formation de nos cadres afin d'assurer l'encadrement des troupes. » Fin de citation. La RDC et la Tanzanie projettent ainsi de mettre sur pied un comité de suivi en charge d'étudier les modalités pratiques de cette coopération. Guy Kabombo Mwanyamvita a par ailleurs salué le soutien indéfectible de la République unie de la Tanzanie à la République démocratique du Congo pour un retour de la paix durable.
Dans le territoire de Béni où nous allons à présent, une vive tension a été observée ce samedi à l'entrée principale de la cité frontalière de Kassindi-Loubiria. Pour cause, l'arrestation par la police lundi dernier d'un camion qui transportait du cacao, cargaison que la pointe s'est soupçonnée d'être frauduleuse. C'est que conteste la population. Les autorités locales appellent les agriculteurs à l'apaisement. Marc Maroufimbo nous fait le point.
Tout est parti lundi dernier quand les services de sécurité ont arrêté un camion qui transportait des sacs de cacao des agriculteurs de Kassindi en provenance des champs situés dans les localités du groupement de Basongora à une dizaine de kilomètres de la cité frontalière de Kassindi. Le président des agriculteurs de Kassindi-Loubiria conteste les soupçons de fraude exprimés par la police pour justifier la saisie du camion. Il affirme que les cacao provenaient des champs de la population pour être stockés dans l'un des dépôts de cette agglomération frontalière de l'Ouganda. Cinq jours après, les camions et sa marchandise sont toujours détenus par les services de sécurité, ce qui a poussé la population à organiser un sit-in devant les locaux de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, et l'Office national des contrôles, ONC. Contacté, le délégué du gouverneur dans cette entité appelle les manifestants au calme. Barthélémy Kambale indique que des pourparlers sont à court afin de trouver solution à ces problèmes. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette alerte du député national Antoine Ntabala au gouvernement et au peuple congolais en rapport avec le danger que représente la drépanocytose, un sérieux problème de santé publique en RDC. Dans un point de presse samedi à Kinshasa, l'élu de Tchangou à Kinshasa a déclaré que cette maladie, autrement appelée anémie SS, touche la population congolaise à une proportion inquiétante. Et pour arrêter le cycle des transmissions, le député national Antoine Ntabala demande au gouvernement d'améliorer l'accès aux médicaments essentiels en intégrant la lutte contre l'anémie SS dans les système des soins de santé primaire. Ces propos ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Cette maladie génétique est cause de plusieurs mortalités accentuées. Beaucoup de familles sont fracassées, sont disloquées, sont paupérisées à cause de cette maladie. Les Nations Unies, en décembre 2008, a voté une résolution reconnaissant la drépanocytose comme problème de santé publique. Et la République démocratique du Congo est le pays le plus touché en Afrique après le Nigeria. 30% des Congolais sont porteurs du gène S, c'est-à-dire ils sont des génotypes AS. 30% c'est trop, ça traduit les risques très élevés de voir des personnes AS-AS se marier et la conséquence est connue. 60% à 70% des enfants drépanocytaires meurent de 0 à 5 ans. Et quand une famille a un enfant drépanocytaire, c'est un calvaire. Chercher à arrêter ce cycle de transmission dans notre pays a exigé qu'on puisse proposer une loi contre cette maladie dans notre pays. Et nous pensons avec cette loi qu'il est possible qu'on ait une République démocratique du Congo sans anémie SS.
À propos justement de ces déclarations du député national Tabala qui intervient après le dépôt au bureau de l'Assemblée nationale la semaine dernière d'une proposition de loi pour réguler la prévention et le dépistage, notamment à travers la sensibilisation. Lubumbashi, les pensionnaires de l'hospice des vieillards de Kamalondo ont été visités vendredi dernier par le personnel de l'hôpital provincial de référence Diazan Sende. Objectif visé, assurer les consultations gratuites et posées à l'égard de ces personnes de troisième âge, un geste de générosité. Jean Gandou pour d'autres détails.
L'hôpital provincial de référence de Nsomtsendwe a mis le petit pas dans les grands. Il a déployé la clinique mobile et son personnel constitué des médecins, des infirmiers, des laborantins et des femmes de ménage. Pendant que les malades étaient consultés, les femmes de ménage nettoyaient les chambres en arrangeant toutes choses et redonnant de l'espoir ainsi que de la fraîcheur à cet hospice des vieillards. Au cours de ces consultations, le constat suivant a été fait. Docteur Foreman Mabala, directeur général de l'hôpital de Nsomtsendwe.
Plusieurs d'entre eux ont présenté des cas d'hypertension, il y a des cas de diabète, il y a des cas de gangrène. Nous avons fait des examens paracliniques et nous avons aussi associé l'ophtalmologie où nous avons trouvé des sérieux problèmes, même des problèmes pulmonaires et certains de patients trouvés avec des pathologies qui nécessitent un approfondissement dans les diagnostics pourront être transférés à l'hôpital Diazan Sende pour que nous puissions faire le scanner, la radiothorax et tant d'autres examens.
Notons qu'à cette occasion, de vivres et des non-vivres ont été remis aux pensionnaires de cette maison de retraite. Un geste salué par les bénéficiaires qui ont émis le vœu de revoir la même équipe très prochainement. Pour les organisateurs de cette clinique mobile, d'autres couches défavorisées de la ville bénéficieront aussi des mêmes consultations dans les jours à venir.
Avant de passer à la page internationale, nous allons dans la province de l'Ituri, territoire des Djougou. Divers produits agricoles pourrissent dans des villages à cause du manque des moyens des transports et de l'insécurité. C'est le cas de la région de Largou et Drodro où des paysans ne savent pas cheminer leurs produits des champs vers les grands centres de consommation. La société civile dit que cette situation prive aussi de nombreux habitants de cette entité de plusieurs produits de première nécessité qui proviennent généralement de la ville de Bounia. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Reconnue pour la fertilité de son sol, la région de Djougou produit entre autres des pommes de terre, des choux, de la tomate, du haricot, pour ne citer que ces quelques cas. Aujourd'hui, il est difficile pour certains agriculteurs de trouver des débouchés pour écouler leurs produits. En cause, l'insécurité par exemple sur l'axe Largo Saliboko Katoto, Charité Banza est le responsable de la société civile du Baïmanor.
Vous savez aujourd'hui des pommes de terre que nous avons cultivées ici, on doit maintenant évacuer ça du côté de Largo vers Bounia, de Mazumbuku vers Bounia. Mais comme les gens ne circulent pas dans les routes à cause de l'insécurité, plusieurs produits peut-être commencent à pourrir, comme des choux, comme des pommes de terre, et même les produits de la première nécessité qui montent de Bounia à Largo, comme les savons, du sel, des carburants, des unités, tout au sort. Il y a maintenant des galopes des prix dans les milliers. Les carburants qui s'est négocié dans notre centre à 3500 maintenant, ça devient maintenant 5000 francs le litre.
La situation est similaire dans plusieurs autres coins des territoires de Djougou, d'Irmou, encore de Mambasa, occupés par différents groupes armés. Le vœu de la population est de voir les responsables en charge de la sécurité restaurer l'autorité de l'État. Cela permettra à cette population, en majorité paysanne, de tirer profit des produits de la terre. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Actualité internationale.
Face aux tarifs douaniers américains, Harare joue la carte de l'apaisement. Son président Emmerson Mnangagwa a décidé samedi de suspendre tous les droits de douane sur les marchandises en provenance des États-Unis. Dans un message publié sur X, Mnangagwa explique que cette levée vise à favoriser l'expansion des importations américaines sur le marché zimbabwéen tout en soutenant la croissance des exportations du Zimbabwe vers les États-Unis. Donald Trump a imposé des taxes douanières de 18% sur les produits zimbabwéens. Avec cette suspension, Harare espère obtenir un abandon de cette restriction. En rapport avec cette situation, le samedi 6 avril, des milliers de manifestants ont défilé à travers les États-Unis dans le cadre des plus grandes manifestations organisées contre la présidence de Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir. Sous le slogan « Bas les pattes », ces rassemblements ont réuni plus de 1200 sites de protestation à travers tous les États-Unis, tous les États du pays, rassemblant des groupes aussi variés que des militants des droits civiques, des syndicats, des vétérans et des militants pour la justice sociale. Le but de ces manifestations, dénoncer les politiques de Trump jugées néfastes pour la démocratie, les droits sociaux et l'inclusion.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Solange Riziki. Elle est initiatrice de l'orphelinat Nuit Nid d'Espoir. Elle s'est donnée pour mission d'encadrer les orphelins victimes des conflits armés en RDC. Sa structure, créée en 2020, héberge à ce jour une vingtaine d'enfants orphelins venus de l'Est du pays. Dans cet entretien avec Plontin Yambenga, elle parle du parcours effectué en 4 ans, mais aussi des difficultés rencontrées dans l'encadrement de ces enfants orphelins. Suivez.
Bonjour madame.
Bonjour.
Et cet orphelinat existe depuis combien de temps?
C'est depuis 2020 que l'orphelinat existe. En juin 2020, les enfants sont arrivés des zones de conflit, c'est-à-dire de l'Est. Nous avons recueilli les enfants et c'est à partir de ça que nous sommes là en train d'éduquer, de prendre en charge les enfants.
De 2020 à 2025, pratiquement 5 ou 4 ans, combien d'enfants avez-vous déjà reçus?
Nous avons 24 enfants. D'où 10 garçons et 14 filles.
Et le plus âgé à quel âge?
Le plus âgé à 17 ans par rapport au tout petit. Mais nous avons aussi des grands, c'est-à-dire un garçon et une fille qui ont déjà 20 ans.
Et tous sont scolarisés?
Tous sont scolarisés et les plus grands qui n'avaient jamais été à l'école ont commencé par faire le rattrapage. Et la grande fille, elle est en deuxième humanité en mécanique générale. Le grand garçon, il est en train de faire, il est dans le centre de rattrapage. Et le tout petit, la toute petite, elle est en maternelle. Elle a 4 ans.
Et quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'encadrement de ces enfants?
Nous avons beaucoup de difficultés, mais Dieu fait grâce. Ce qui me préoccupe pour le moment, c'est la santé des enfants. Oui, c'est sur le plan sanitaire, le coin où nous sommes, vous-même vous avez constaté que c'est vraiment un nouveau lotissement et il n'y a pas de centre médical, il n'y a pas d'hôpital. Et même toute la population qui vit ici en souffre. Donc le besoin urgent ici, c'est que l'orphelinat Nuit d'Espoir a besoin de mettre ici un centre hospitalier pour la santé de nos enfants et aussi de toute la communauté ici dans le quartier. À part le centre hospitalier, pourquoi pas ne pas mettre aussi une école des enfants parce que les enfants vont étudier un peu plus loin. Donc nous avons besoin nous avons notre terrain, mais nous avons besoin vraiment d'un appui pour pouvoir construire et le centre hospitalier et les écoles pour pouvoir aider pas seulement nos enfants, et les enfants aussi du quartier, parce que, au fait, à part nos enfants, les 24, vous avez constaté qu'il y a aussi d'autres enfants du quartier qui bénéficient de notre encadrement, même s'ils sont externes de l'orphelinat. Voilà un peu.
Et vous encadrez ces enfants qui arrivent à l'orphelinat tout jeunes, quand ils deviennent majeurs, qu'est-ce que vous prévoyez d'en faire?
Non, c'est comme ça que nous sommes en train de penser aussi à mettre une école professionnelle. Il y a les grands qui sont là, ils font deux qui font le métier. Ils font comment, le menuiserie, l'autre qui veut faire électricité. Ils doivent déjà partir de cet âge de 20 ans, se prendre en charge, être autonome. C'est comme ça qu'on les ramène dans des centres professionnels pour qu'ils apprennent un métier qui va les aider plus tard dans la vie. Quelles que soient les études qu'ils aimeraient faire, je préfère qu'il passe par le centre professionnel pour apprendre un métier qui pourra l'aider plus tard.
Et quel message vous pouvez lancer aux autorités à partir de vous suivre à travers Radio Capi?
Tout ce que je sais, c'est leur appui. On demande l'appui de nos autorités, qu'ils viennent nous appuyer par rapport aux documents, par rapport à leur prise en charge. Il y a Fonarev, il y a le ministère des droits humains qui nous a parlé des réparations. Ces enfants ont besoin de bénéficier de ces réparations. Parce que ce sont des victimes des conflits armés et ils ont besoin vraiment de bénéficier de ces réparations. Ils ont besoin qu'on leur construise leur fenêtre. Parce que nous avons un grand projet, c'est d'aider un plus grand nombre d'enfants, 300. Ce terrain, on peut y mettre aussi des écoles professionnelles, des hôpitaux et beaucoup d'autres choses. Parce qu'on a plus de... C'est le cri que je lance à nos autorités, au ministère des droits humains, au ministère des affaires sociales. Pas seulement nos enfants, mais partout en République démocratique du Congo, là où il y a les enfants orphelins, et surtout à l'est de la République démocratique du Congo, que
l'autre gouvernement se penche sur cette question parce que les enfants subissent des abus dans des zones de conflit.
Merci d'avoir répondu à nos questions, madame.
Merci beaucoup.